parti. Merci beaucoup, Steve, et toute son équipe qui nous prépare ces chants, qui arrive tôt le dimanche matin pour nous préparer ces louanges, qu'on puisse adorer notre Seigneur et vraiment disposer nos cœurs à l'adorer. Et comme Adama le mentionnait, ce matin, nous en sommes à notre dernier segment du livre de Néhémie. Donc, on va terminer, clore ce beau livre, ce grand livre qui nous a inspiré de différentes façons. Et avant tout, je voudrais tous vous saluer ce matin, vous tous ici présents, et également saluer ceux qui vont nous écouter via notre site Internet, car nombreux, ils sont dans la francophonie mondiale qui viennent sur notre site Internet et nous écouter. Donc, on tient à vous saluer également, vous tous, et ça nous fait plaisir de vous partager la parole de Dieu avec nous ce matin, et que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Alors, je vous invite à tourner dans vos Bibles, dans le livre de Néhémie, et on tourne au chapitre 13, donc ce 13e chapitre. Vous savez, on a commencé Néhémie le 29 septembre l'an dernier, donc évidemment, ça a été entrecoupé de plusieurs messages hors série. Donc, le 29 septembre dernier, en 2013, Adama qui débutait avec l'introduction, et nous voici ce matin, en septembre 2014, nous terminons avec ce dernier segment. Chapitre 13, verset 23, et on lit ensemble pour ce matin, 13, verset 23. « À cette même époque, je vis des Juifs qui avaient pris des femmes asdodiennes, ammonites, moabites. » La moitié de leurs fils parlait l'asdodien et ne savait pas parler le juif. Ils ne connaissaient que la langue de tel ou tel peuple. Je leur fis des réprimandes et je les maudis. J'en frappais quelques-uns et je leur arrachais les cheveux. Et je les fis jurer au nom de Dieu en disant, « Vous ne donnerez pas vos filles à leurs fils et vous ne prendrez leurs filles ni pour vos fils ni pour vous. N'est-ce pas en cela qu'a péché Salomon, roi d'Israël, il n'avait point de roi semblable à lui parmi la multitude des nations. Il était aimé de son Dieu, et Dieu l'avait établi roi sur tout Israël. Néanmoins, les femmes étrangères l'entraînèrent aussi dans le péché. Faut-il donc apprendre à votre sujet que vous commettez un aussi grand crime et vous péchez contre notre Dieu en prenant des femmes étrangères? Un des fils de Jojada, fils d'Elishib, le souverain sacrificateur, était gendre de Sanballat, le Horonite. Je le chassais loin de moi. Souviens-toi d'eux, ô mon Dieu, car ils ont souillé le sacerdoce et l'alliance contractée par les sacrificateurs et les Lévites. Je les purifierai de tout étranger et je remis en vigueur ce qui devait observer les sacrificateurs et les Lévites, chacun dans sa fonction, et ce qui concernait l'offrande du bois aux époques fixées, de même que les prémices. Souviens-toi favorablement de moi, ô mon Dieu. » Béni soit sa parole ce matin. Et remarquons que dans ce texte, je voudrais seulement soulever qu'il y a comme deux thématiques, si on pourrait dire. Il y en a un qui traite spécifiquement de la question des mariages mixtes, versets 23-28, et une toute dernière partie, les versets 29-31, qui sont une prière de ce serviteur de Dieu qui clôture ce formidable récit que nous avons regardé au cours de la dernière année. Avant de traiter le problème qui nous intéresse aujourd'hui, la question du mariage mixte, j'aimerais regarder ce que fut le travail de Néhémie lors des deux derniers messages pour ceux et celles qui n'auraient pas eu l'occasion de nous entendre. En fait, c'était tout récemment, la semaine dernière, qu'Adama nous entretenait sur ce passage concernant le sabbat. Mais reculons un peu en arrière. C'est important de voir le contexte dans lequel Néhémie se trouve. Après la reconstruction de la muraille, qui a duré un peu plus qu'un an, quand même, Néhémie a demeuré à Jérusalem une douzaine d'années. Avant de retourner en Perse, auprès du roi, à titre de conseiller. Donc, l'histoire ne raconte pas exactement combien de temps, mais selon différents commentateurs, on parle de entre 10 à 15 ans, l'absence de Néhémie à Jérusalem. Et à un moment donné, Néhémie prend sa retraite. Je pense que ça arrive à un moment donné. On a tous, des fois, hâte à cela, hein? Néhémie prend sa retraite du roi et retourne, ce qu'on appelle pour son deuxième mandat, mais ce sera un deuxième mandat permanent, puisqu'il retourne à Jérusalem pour y occuper, en fait, terminer ses jours et avoir son sépulcre dans la cité de ses pères. Mais son retour à Jérusalem est un choc. Comme on le mentionnait, comme Trevor nous l'a mentionné, un déclin spirituel. Spirituel dans le sens de l'abandon des promesses du peuple qui avait fait de préserver les ordonnances de l'Éternel. Un déclin spirituel terrible qui a choqué Néhémie dans toutes les cellules de son corps. Premièrement, on a vu qu'on avait souillé le sacerdoce, que les appartements du temple étaient même occupés par des ennemis du peuple. Deuxièmement, la semaine dernière, comme je le mentionnais, on a vu que le sabbat n'était plus respecté. Et troisièmement, les mariages mixtes. Les enfants d'Israël qui ont pris pour femmes des étrangères et leurs filles sont données aux fils des étrangers. Et il y avait également des divorces non légitimes pour permettre justement ces mariages avec les étrangers. Des vœux prononcés devant l'Éternel, signés. Quelques années passent, Néhémie est absent, il revient. Néhémie saute sa coche. C'est absolument aberrant et c'est un mauvais spectacle, comme on peut le lire. Mais avant d'y aller, avant d'aller dans cela, j'aimerais qu'on retourne dans notre texte. Allons voir versets 23 et 24. Parce qu'on va voir qu'est-ce qui a amené Néhémie à ça. Verset 23. « À cette même époque, je vis des Juifs qui avaient pris des femmes asdodiennes, ammonites, moabites. » Verset 24. « La moitié de leurs fils parlait l'asdodien et ne savait pas parler juif. » Je ne veux pas le lire non plus. « Ils ne connaissaient pas, ils ne connaissaient que la langue de tel ou tel peuple. » Moi, j'aime le verset 24 parce que Néhémie vise directement le cœur du problème. Le cœur du problème qu'ont amené ces mariages mixtes. Et là, on ne parle pas d'une question de pureté de sang pour maintenir une lignée royale dans Juda. Ce n'est pas cela, c'est une pointe. C'est la pointe du iceberg. Des mariages qui ont inévitablement causé des effets secondaires catastrophiques sur le plan spirituel. Et quand on parle, tu sais, quand on mentionne effet secondaire, il y en a plusieurs ici qui savent que lorsque le médecin peut nous prescrire un médicament, évidemment, le but du médicament est pour alléger, voire même éliminer une douleur, une souffrance, un mal. Et lorsque le médecin dit « Oui, mais ça va causer des effets secondaires », c'est jamais vraiment positif. Et ça peut causer des étourdissements, des nausées, des crampes, des maux de tête. Je pense qu'il y en a ici qui savent. Moi, je ne sais pas de quoi je parle, mais il y en a ici qui comprennent très bien. Hein, je vois mon frère Laval. Hein, Laval, tu comprends ce que c'est des effets secondaires, mais comme il y en a d'autres ici aussi. Et c'est un peu dans ce sens-là que Néhémie a constaté ces effets secondaires qui ont été terribles. Et voyons ce que l'Éternel lui-même avait prescrit. Hein? La prescription et le pourquoi. Vous pouvez tourner dans vos Bibles si vous voulez, je l'ai mis à l'écran pour vous. Exode 34:15. « Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays de peur que, se prostituant à leur Dieu et leur offrant des sacrifices, ils ne t'invitent et que tu ne manges de leurs victimes, de peur que tu ne prennes leurs filles pour tes fils et que leurs filles, se prostituant à leur Dieu, n'entraînent tes fils à se prostituer à leur Dieu. Deutéronome, chapitre 7, verset 3, tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples. Tu ne donneras point tes filles à leurs fils. Si tu ne prendrais point leurs filles pour tes fils, car ils détourneraient de moi tes fils qui serviraient d'autres dieux, et la colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous. Ils te détruiraient promptement. Je ne l'ai pas mis à l'écran, mais Malachie, prophète du temps de Néhémie, qui on estime qu'il aurait prononcé ces paroles pendant justement l'absence de Néhémie. Si vous voulez tourner dans vos Bibles, Malachie chapitre 2, verset 11. Judas s'est montré infidèle et une abomination a été commise en Israël et à Jérusalem, car Judas a profané ce qui est consacré à l'Éternel, ce qu'aime l'Éternel. Il s'est uni à la fille d'un Dieu étranger. Néhémie savait très bien les effets secondaires et les conséquences qui sont reliées à ce péché. L'abandon, la désobéissance des ordonnances, l'abandon des moyens qui donnent l'accès aussi à la parole. Il ne parlait plus la langue. Comment la lire? Un déclin spirituel vers l'idolâtrie, vers l'immoralité. Puis la patience de Dieu qui atteint ses limites et le péché. Le péché à la racine du comportement de Juda qui a causé leur déportation en Babylonie sous le joug du roi païen Nabuchodonosor. Vous savez la raison, hein? Peut-être la raison pour laquelle ce péché a autant d'efficacité, c'est que dans les récits que l'on regarde, que l'on constate, il s'est introduit dans le peuple, il s'est introduit parmi le peuple en commençant par la tête, dans la royauté même. Et lorsque ça commence par la tête, hein, ça va se propager rapidement. Et Néhémie au verset 26 rappelle au peuple, justement, ce grand roi, Salomon. On regarde, hein? « N'est-ce pas en cela qu'a péché Salomon, roi d'Israël? Point de roi semblable. Dieu l'avait établi roi sur tout Israël. Néanmoins, les femmes étrangères l'entraînèrent aussi dans le péché. Faut-il donc apprendre à votre sujet, hein? Vous commettez le même péché contre Dieu en prenant des femmes étrangères. » Néhémie leur rappelle que même le grand roi Salomon, l'homme le plus sage de toute la terre, que toute la terre ait connu, a succombé à ce péché. Bien, vous savez, Néhémie aurait pu nommer tous les rois aussi. Il aurait pu les nommer, de David jusqu'à Sédécias, en passant par Manassé. Surtout Manassé. Mais il y avait quelque chose de particulier à propos de Salomon, hein? Sa sagesse. Loin de Dieu. Tu sais, c'était particulier pour Dieu. Et en plus que Salomon est l'auteur, à une dizaine de reprises dans les Proverbes, à une dizaine de reprises, Salomon lui-même met en garde contre les dangers reliés à la femme étrangère. Le fameux piège par excellence qui a entraîné toutes les familles royales, hein, jusque dans le sacerdoce, la prêtrise, hein, ça s'est infiltré, entraînant immoralité, idolâtrie. Sommes-nous dans l'Église à l'abri de cela? Il faut prier pour les responsables des églises. Vous voyez comment le péché a commencé à la tête et comment rapidement ça peut dégénérer dans le peuple. Priez pour les responsables, les dirigeants des églises. Paul écrit dans des mots différents. Il met en garde les chrétiens de Corinthe du même danger. Il ne cite pas la loi, mais lisons. 2 Corinthiens 6, 14. « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou, Qu'y a-t-il donc de commun entre la lumière et les ténèbres? Voyez l'image à laquelle Paul fait référence. Paul savait très bien que les gens de l'époque comprenaient lorsqu'on parlait d'un joug, un joug étranger. En anglais, l'expression « unequally yoked » et ce que ça entraîne. Ça risque de tourner en rond. Le joug va blesser. Hein? Ce n'est pas égal. Ça va être très inconfortable pour l'animal. Ça va blesser. Ça va bien mal travailler. Et ça peut être fait de bien des façons. J'ai même vu des images d'un chameau avec un âne. Imaginez. Comment est-ce que l'opérateur devait travailler fort pour que ça fonctionne droit? Remarquez que Paul n'écrit pas « Vous ne vous marierez, vous ne pas vous marier. Hein? » La portée de ses paroles, il ratisse beaucoup plus large. Il veut toucher toutes les sphères de notre vie dans lesquelles nous pourrions nous associer étroitement avec un non-croyant. Une association qui mène sur une pente glissante. Pour finalement peut-être nuire au témoignage, nuire à notre marche dans le Seigneur. Moi, ce matin, je désire aller un petit peu plus loin dans la réflexion et élargir encore notre perspective de la question du joug étranger à celui d'une force étrangère. N'oublions pas que nous sommes une œuvre spirituelle. Christ, en nous, nous façonne, nous travaille, il nous émonde. Une sanctification progressive vers une transformation finale lors de la résurrection. Une œuvre spirituelle que nous sommes pourrait se retrouver lentement, subtilement, marié à une force étrangère. Ça peut être un sport, une activité, un loisir, un projet, la télé, le cyberespace. Ces choses peuvent avoir un effet secondaire identique à la question des mariages mixtes dont fait référence Néhémie et la loi. Je ne dis pas tout, mais au moins un. La distraction du cœur envers les choses du royaume de Dieu. Qu'est-ce qu'on entend et on lit aujourd'hui, hein, dans les émissions de variété à la télé, les livres dans nos bibliothèques? Qu'est-ce qu'on dit à nos enfants dans les écoles? Il est important que tu aies une passion dans la vie. Trouve-toi une passion. Donne-toi à 110% dans ta passion. Et vous verrez, ça va transformer votre vie, ça va transformer la vie des gens autour de toi. Vous savez, j'ai vu récemment le comédien. Moi, je ne savais pas qu'il était comédien, mais je savais que c'était un ultra-marathonien, Patrice Godin, qui est comédien, je ne pourrais pas dire à quelle émission dans les téléromans. Mais moi, j'ai été touché par à quel point cet homme-là était passionné pour son sport, à des ultra-marathons. Il a même fait, il expliquait le VT100, Vermont 100, 100 000 Américains, là. Ça, c'est 165 kilomètres. Normalement, les moins vite complètent ça en 28 heures. Lui, il l'a fait en 23 heures. Il était dans la moyenne. T'sais, il est ordinaire, tu dis. Mais c'est pour dire à quel point, là, quand il fait des ultra-marathons comme ça, des super Iron Man, à quel point le corps est éprouvé et que là il y a une psychologie même, il y a presque une spiritualité dans ça, dans laquelle il dit, là, le corps rentre dans un conflit, puis là c'est important d'aller contrôler ça, sinon tu vas abandonner. Et c'est assez extraordinaire, là. Ça va loin, puis c'est fascinant de voir à quel point ça peut être complexe. Et on voit qu'il est passionné. J'avais un collègue au travail. C'était un passionné des trains. Pas les trains miniatures, les vrais. Puis il n'était pas tout seul. Il y a un club mondial de ça qui suivent les trains. Il y en a qui sont spécialisés dans les locomotives. Il y en a d'autres, c'est les wagons de transport. Ils répertorient les numéros de série. Ils savent où telle locomotive est rendue. Ils ont des collections de photos. Ils voyagent à travers le monde, les gares. C'est tout un monde. Puis c'est un passionné. Il était au travail, puis les gens lui en parlaient tout le temps. Fait que lui, il en parlait. Et puis c'était ça. On parlait d'André. André, là, ça, c'était le passionné des trains. C'est juste pour dire. Puis là, attention, là, c'est pas pour dire que c'est mal. C'est mal d'avoir ces hobbies, ces loisirs. Mais je pense que je veux les utiliser comme exemple. À quel point on peut se donner passionnément dans un sujet, dans une activité, et démontrer qu'on se donne corps et âme à ça. C'est bien? Même je pense que ça fait du bien de temps en temps, prendre un recul, ça donne une activité, ça apporte un équilibre. Je sais qu'il y en a ici, je parlais d'ultra-marathon, là, Manon, Steve, je sais qu'ils sont pas mal dans les montagnes, tout ça, puis hein, on part, on décroche. Steve me racontait au Mont Gosford à quel point, des fois, là, la fin de semaine, il part escalader, là, il décroche du travail. Il ne pense plus à rien d'autre. Et ça ramène, on revient au travail et ça nous porte un nouveau regard, ça fait du bien. Il y en a que c'est le jardinage. Hein, aller dans les plants de tomates. Ça achève, là, dépêchez-vous, ils vont geler bientôt. Moi, c'est des petites corvées de nettoyage. J'aime ça. Là. Je ne suis pas un maniaque là, de frotter mon char, mais des fois, quand j'ai besoin, là, je m'en vais en dessous là, puis je frotte le moteur, j'enlève la graisse. Là. Pas longtemps, là, une couple d'heures. Ça a comme, on dirait, pendant ce temps-là, je méditais, puis... Mais il faut se surveiller. Il faut se surveiller les effets secondaires qui peuvent nous amener trop loin dans cela. Hein? Ce matin, on a tous ouvert nos Bibles ce matin. Parfois, hein, c'est la première fois qu'on peut ouvrir notre Bible le dimanche matin. Vous savez, moi, la plupart du temps, c'est la première fois dans la semaine que je rouvre ma Bible. Parce que dimanche, c'est le premier jour, hein? Mais faire sa part, combien de fois, hein, combien de semaines ou combien de journées je peux avoir contracté temporairement des petits mariages temporaires avec une force étrangère pour me distraire ou parce que je suis occupé. Tu sais, je vais aller au gym une heure ou deux, une petite séance de torture volontaire, ça fait du bien pour le corps. Puis après ça, ben là, dans la semaine, il y a peut-être un ou deux films. Des films de deux, c'est long les films à cette heure, trois heures, c'est trop long. Hein? On va tweeter, on va Facebooker. Mais, pas eu le temps de lire ma Bible cette semaine. On est-tu occupé? Ça n'a pas d'allure. Hein? Coudonc, c'est-tu juste moi? C'est-tu juste moi qui est comme ça? Le vieil adage, hein? Dis-moi en quoi tu investis ton temps et ton argent, et je te dirai où ton cœur est. Est-ce que même, on parle d'activité, de loisirs, mais est-ce que nos inquiétudes peuvent même être une source de distraction? Une source de distraction même plus importante que le Seigneur. Ça peut-tu arriver? Juste l'inquiétude affairée dans nos têtes. Moi, je pense que oui. Il y a un bel exemple de ça, hein? L'Évangile de Luc, chapitre 10, hein, où Luc va visiter Marthe et sa sœur Marie. Marie qui est assise aux pieds de Jésus. Et qu'est-ce qu'elle faisait, Marie? Elle écoutait. Elle écoutait le Seigneur Jésus. Elle buvait de ses paroles. Et là, Marthe, elle courait d'un bord puis de l'autre avec la balayeuse. Les travaux domestiques. Elle était occupée et j'imagine qu'elle devait raconter plusieurs choses là, en passant dans la conversation. Et Marthe qui même demande au Seigneur, écoute, pourrais-tu lui dire hein, d'arrêter de t'écouter puis qu'elle vienne m'aider? J'ai d'ouvrage, là. Et le Seigneur qui lui répond, hein, Luc 10, 41, Marthe, tu t'inquiètes, tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Et Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée. C'est un bel exemple à quel point peut-être même nos inquiétudes peuvent nous... Tournez dans Colossiens 1:18, je ne l'ai pas mis à l'écran dans vos Bibles. Colossiens 1, 18. Colossiens 1, 18, on lit, « Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. » Afin d'être en tout le premier. Est-ce que le Seigneur a la première place dans mon cœur? Si on dit « en tout le premier », ça inclut mon cœur. Il faut qu'il ait la première place. Mais attention, je parle du Seigneur lui-même, Jésus-Christ, hein, qui, par le Saint-Esprit de Dieu, habite en nous. Par qui, hein, on a été sauvés? Je ne parle pas là, du ou des ministères de l'Église. Hein. Notre ministère peut même devenir une passion qui va prendre la place de cette relation intime. Croyez-vous cela? L'ennemi peut transformer votre ministère en une force d'activisme qui va devenir un centre d'intérêt, une préoccupation première. Je parle ici de la personne de Jésus-Christ, celle avec qui on dit « c'est une relation personnelle ». Combien de fois qu'on a dit ça au kiosque des fermiers chrétiens quand on a, hein, Robert, des fois quand les gens questionnent ça, « c'est une religion votre affaire ?» Non, je vous parle de la personne de Seigneur Jésus-Christ, Dieu avec qui vous pourrez avoir une relation personnelle. Hey, faut comprendre la portée de ce qu'on dit, là, une relation personnelle. La personne vers laquelle je dirige mes louanges, parce que si je dirige mes louanges, il m'entend, là, il faut qu'il m'entende, sinon je chante pour rien. Je crois qu'il m'entend. Vers laquelle je dirige mes requêtes, la personne à qui je me confesse, je me confie, la personne aussi que j'essaie d'écouter. Je peux parler beaucoup. Des fois, il faut que je m'arrête, il faut que j'écoute. Discerner sa voix parmi toute l'interférence qui circule dans mes oreilles. Un chrétien disait à son pasteur, il dit, « Pasteur, il dit, c'est difficile de discerner la voix de Dieu. » Il dit, « dans tout ce bruit-là qui entoure nos vies. » Le pasteur, il dit, « Oui, effectivement. » Il dit, « Mais, il dit, on sert de moins en moins des oreilles de lapin. » Puis il dit, « On sert plus souvent du câble. » Sers-toi, il dit, « As-tu le câble chez vous? » Il dit, « C'est certain qu'il faut être à l'écoute. » Mais il faut être plugué sur le câble, sur sa parole, directement sous nos yeux. Et c'est ironique, hein, vous savez, même en 2014, il y a des gens à travers le monde qui le peu de bien-être, le tout petit peu de bien-être qu'ils ont, ils vont le mettre en péril pour pouvoir mettre la main sur une copie de la Bible ou une partie de la Bible. Et nous, c'est notre extrême bien-être qui parfois ou trop souvent nous empêche de la lire. Non seulement le peuple juif avait trahi leur propre engagement vis-à-vis de Dieu, hein, mais il avait placé l'ennemi du peuple dans le sacerdoce, dans leur propre famille. Et quand je dis ennemi, là, je parle des gens qui s'étaient attaqués à ceux, aux Juifs qui voulaient reconstruire Jérusalem, qui voulaient empêcher la reconstruction, qui sont même pris à la vie de Néhémie, à la vie du peuple. Le petit-fils du souverain sacrificateur était rendu le gendre de Sanballat. Oui, oui, Sanballat, le Sanballat là, du chapitre 2, 4, 6. Et quand je disais que Néhémie avait sauté sa coche, c'était je ne ménageais pas mes paroles. Hein? Verset 25, « Je leur fis des réprimandes, je les maudis. J'en frappais quelques-uns. Je leur arrachais les cheveux. » Vous savez, hein, une quinzaine d'années auparavant, c'est pas nouveau, hein, ça, Esdras chapitre 9, même chose. Même chose. Lui, il s'est arraché les cheveux, puis il s'est tiré à la barbe. Peut-être que Néhémie n'était pas capable, là. Il était peut-être comme André. C'est André, c'est pas. Non. Mais Néhémie s'en est pris à ceux qui commettaient le péché. Le même péché qui avait entraîné la chute de Jérusalem. la déportation de ses grands-parents. C'est proche, là. Ses grands-parents avaient été déportés à Babylonie. Hey, là, c'était trop. Trop pour, même pour l'homme de Dieu qu'il était. Une sainte colère. Moi, je crois là, que les mêmes émotions. Les émotions là, qui ont traversé Néhémie là, étaient les mêmes qui ont traversé notre Seigneur Jésus. Lorsqu'il a vu dans Jean chapitre 2, lorsqu'il a vu les marchands, les vendeurs dans le temple qui troquaient, qui vendaient à gros prix, qui avaient souillé la maison du Père. Notre Seigneur qui a chassé, il a renversé des tables, il a pris des cordes puis il a chassé le monde. Il a tout sorti le ménage. Notre Seigneur a pris des moyens sévère, violente, pour s'en prendre, qui pour lui, c'était quelque chose de saint. On ne pouvait pas toucher à ça. Puis moi, de toute façon, je ne pourrais jamais le comprendre, Néhémie, parce que moi, je me mets jamais en colère, moi. Je ne peux pas le comprendre. Même les gens qui me connaissent, des fois, parfois, ils me disent, « Ah ouais, toi, Steph, tu te mets en colère? » Oh. Ça dépend. Ça dépend. Là, t'sais, il y a des choses. Moi, c'est très rare. Je vais m'en prendre aux gens, mais je vais être plus sévère envers moi-même puis envers des objets. Moi, quand une imprimante va pas bien, là, puis que là, ça presse, hein, ou que l'ordinateur et qu'il y a des images qui me viennent, là, ça arrive. Alors, ça peut arriver même au volant, des fois, on se fait couper, là, puis là, c'est comme... Pourquoi il a fait ça, lui-là, là? Hein? Puis là, il devient quasiment là, l'envie là, d'accélérer puis de aller lui montrer qu'est-ce qu'il m'a fait. Ça vient, ça circule, hein? C'est en nous. Mais ça, c'est, mes frères et sœurs, c'est tout un sujet. Hein? Il y a des séminaires pour les chrétiens qui s'adonnent à la gestion de colère. Le livre des Proverbes est assez riche également dans cela. Probablement plus que celui de la femme étrangère. Curieux, hein? Le proverbiste nous exhorte à maintes reprises d'être lent à la colère. Mais on pourrait quand même souligner ce verset-là ce matin. Et si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez tourner dans vos Bibles. Je l'ai quand même mis à l'écran. Tournez dans vos Bibles à Éphésiens chapitre 4, 26. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Et puis encore pire, hein, la colère hein, qui engendre des racines d'amertume. Là, ça se propage. On peut éteindre le feu. Hein. Je suis plus choqué. Non, c'est correct, je suis plus choqué. Hein? Le feu est éteint, mais là, il y a un feu de racines en dessous. Et puis là, ça peut ressortir. Ça ne prend pas grand-chose. Mais concrètement, là, frères et sœurs, il faut être vigilant. Vigilant dans des excès de colère. Et si ce n'est pas pour une sainte raison, parce que ça, c'est assez rare. C'est rare qu'on a des saintes colères, comme Néhémie puis le Seigneur Jésus. Réglons ça. Il faut le régler rapidement. Réglons ça rapidement, promptement, auprès du Seigneur et puis auprès des gens qui ont été éclaboussés autour de nous. Notre épouse, nos enfants. Ça, c'est pas évident. D'aller dire aux enfants, oh, papa, il a exagéré tantôt, là. C'était pas correct. Ça demande énormément de courage et on en a tous de besoin. Néhémie, dans sa prière, et je termine notre segment ce matin avec justement la prière de Néhémie, qui est très familière, hein? 8 reprises. À 8 reprises, Néhémie formule cette prière. Hein? Souviens-toi. Souviens-toi, Seigneur. C'est pas parce qu'il pense que Dieu est Alzheimer, là. Hein? C'est une formulation qui est très courante. On la retrouve des dizaines de fois, entre autres dans les psaumes de David aussi. C'est une forme de supplication. C'est un cri du cœur. Puis à 3 reprises dans le chapitre 13, Néhémie ajoute, « Souviens-toi de moi. » Oh, de moi. Souviens-toi, moi. On pourrait accuser Néhémie d'un petit peu de nombrilisme, là. Mais en réalité, ce qu'il faut vraiment observer dans la prière de Néhémie, hein, il s'adresse à Dieu. Il s'adresse à Dieu seulement. Il a pas, Néhémie n'a pas exigé aux hommes qu'on érige un monument. Vous ne trouverez pas une statue de Néhémie dans un musée. Ou sur la muraille, ça aurait pu être écrit « Construit par Néhémie le Grand ». Il n'a pas demandé ça. Il parlait à Dieu. Parce que Néhémie comprenait la grâce de Dieu. Il comprenait que c'était recevoir ce qu'on ne mérite pas. Même reconstruire Jérusalem ne fait pas mériter ça. On ne peut rien. On n'y peut rien. Néhémie laisse toute la gloire et l'honneur à Dieu pour ce qui a été accompli. Il n'a pas voulu une médaille. Il n'en a pas demandé. Néhémie prie simplement pour le moment où il va se retrouver. Retrouver après sa mort dans la promesse du repos et des récompenses divines. Hein? Matthieu 25, 21. Hein? Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Entre dans la joie de ton maître. » Néhémie espérait en ça. Il savait que ça allait venir. Il pouvait, il criait au Seigneur à travers sa prière. Est-ce qu'on espère comme cela ce matin, comme Néhémie? Pas parce que c'est les choses qu'on fait, mais parce que c'est lui. Et pour cela, il ne faut pas que je sois distrait. Parce qu'il faut que je sois concentré sur lui. Il y a tellement de choses qui peuvent me distraire. Je dois, comme Néhémie, centrer mon regard vers la gloire de Dieu. Alors, j'aimerais quand même utiliser un petit peu de temps pour conclure cette grande étude du livre de Néhémie. Et pendant que je fais cela, j'invite Steve. Steve et son équipe, on va avoir une coupe de chant que j'aimerais que l'on ait avant de quitter, auquel j'ai à cœur. Et j'aimerais conclure avec trois points à retenir sur toute la leçon du livre. Et il y a plusieurs façons de le faire, vous savez. Mon premier est, il n'est pas trop tard pour faire ce qui est bien. Pas trop tard. Le peuple de Dieu qui était déporté à Babylone, disqualifié, Jérusalem détruit, mais ça ne les a pas disqualifiés de pouvoir revenir, reconstruire. Ils ont retombé dans l'idolâtrie. Néhémie revenu, s'est redressé. Il n'est pas trop tard. Laissez pas votre passé empêcher de faire ce qui est bien. Peut-être que ce matin, ça devrait être le moment où on dit, je vais renouveler ma marche avec lui. Maintenant, commencez par cultiver une vie de prière et de la lecture de sa parole, et qu'on en a besoin. Seul, avec Dieu, en couple, en famille. Rappelez-vous constamment qui est Dieu. Ah oui, grand, extra, bon. Mais rappelons-nous qu'il est le péché. Il déteste le péché. Et on connaît à quel point il peut réagir. Ne nous laissons jamais faire croire qu'il nous aime moins. Dites non aux distractions qui éloignent le cœur. Il ne vous aime pas moins. Mais il faut se rappeler constamment qui il est. Laissez-le vous utiliser. Et ça, comme on dit, il faut sortir de notre zone de confort. Parce que souvent, il veut nous utiliser où est-ce qu'on est faible. Parce que lui se plaît dans notre faiblesse. Parce qu'il va nous montrer à ce moment-là, lui, comment il est grand. Si on veut se tenir seulement où on est fort, on ne lui donne pas de chance. Laissez-le aller. Laissez vers le côté plus faible, et puis là, il va vous démontrer. Et puis, le plus grand exemple de ça, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui s'est dépouillé. Hein? Ce n'était pas lui qui faisait, c'est son Père qui est dans les cieux. Hein? Il avait renoncé à ses pouvoirs. Ça, c'est tout l'exemple. Hein? Il dit, moi, je suis tout faible, mais je sais que le Père dans les cieux, lui, il va m'écouter, puis il va exaucer. Il faut lui laisser toute la place. Alors, on va avoir deux chants, Steve. On en a un qui est par rapport au cœur, feu du fondeur. Que Dieu travaille nos cœurs et un chant de victoire par la suite. Alors, prenons ces chants-là comme une prière qu'on adresse au Seigneur ce matin pour vraiment réaliser notre situation et s'abandonner à lui. Alors, je vous invite à vous lever et on va chanter, prier ensemble ces cantiques. Et s'en remettre à lui entièrement.
C'est un chant qui nous encourage d'être avec Dieu, de faire des exploits avec Dieu. Ce qui est important dans ce chant-là, c'est le mot « avec Dieu ». On est dans une situation de reconstruction aussi, puis je pense que c'est un chant qui va nous un peu se vivre.
Bonne semaine tout le monde.